Je pense qu'on est dans les temps par rapport à la réouverture au culte de la cathédrale. Est-ce qu'on est dans les temps par rapport à la fin du chantier au sens propre du terme? Ça, je ne suis pas du tout capable de vous répondre. Par contre, pour la réouverture au culte dans les 5 ans qui viennent, ça, sauf catastrophe, ça ne fait pas pour l'instant de doute.
Religion du monde, Geneviève Delrue.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Des arcs-boutants mis sous cintre, des filets de protection à l'emplacement des rosaces, des palissades qui tiennent à distance les passants. Où en est le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris, 6 mois après l'incendie qui l'a ravagée? Pour ce point d'étape, le choix de la date était symbolique, mardi dernier 15 octobre à Paris. 6 mois, jour pour jour après ce sinistre 15 avril, le ministère de la Culture rue de Valois et le diocèse de Paris rue du Cloître Notre-Dame ont organisé 2 rencontres avec la presse. Pour le diocèse de Paris, Mgr Benoît de Cinetti, vicaire général, a expliqué que la phase de consolidation du chantier, une phase extrêmement délicate, n'était pas achevée.
Il y a eu le cintrage des arcs-boutants qui a été une opération très importante. Il y a eu le démontage des vitraux aussi, qui était une opération très longue et très importante. Il y a toute l'auscultation de la voûte, pierre par pierre, afin de pouvoir enlever les pierres qui ne peuvent plus tenir la voûte ou qui fragiliseraient la voûte, et garder les autres. Bref, vous voyez, c'est un travail de dentelle, en fait, vraiment de dentelle qui est fait. Alors évidemment, il y a 6 mois, on n'avait pas en tête du tout ce qui allait devoir se passer. On a réagi un peu à chaud tous, on était pressés, puis on voit que les choses sont extrêmement complexes. Donc il faudra du temps. Il y a un facteur temps dans lequel il faut bien se résoudre à rentrer, y compris en 2019. Tout ne se fait pas en 24 heures ou par l'opération magique. Voilà. Après, ce que nous espérons, c'est que ces travaux de sécurisation, notamment le démontage de l'échafaudage qui entourait la flèche où a démarré l'incendie, pourront se faire maintenant dans les 3 ou 4 mois qui viennent, afin que dès le début du printemps, on puisse avoir une idée plus claire et entamer le diagnostic du bâtiment, afin de pouvoir établir un bilan et savoir comment les travaux de reconstruction, de restauration vont s'élaborer dans les années qui viennent.
Sur l'échafaudage, justement, c'est particulier. Il s'agit d'en construire un au-dessus.
Oui. Sur l'échafaudage, il faut construire un échafaudage par-dessus l'échafaudage existant. L'échafaudage existant, il pèse 600 tonnes. C'est considérable. Un bâtiment tout bâtiment tient par le toit, qui appuie. Voilà. Et c'est des questions de force physique. Je ne suis pas très doué en physique, mais c'est des choses qu'on apprend à l'école. Voilà. Eh bien, ce toit qui n'existe plus maintenant, il a fallu donc consolider les murs, et il reste cette masse de fer, de métal qui est totalement compacte du fait de l'incendie, qu'il faut démonter. Il faut la démonter vite, ça fait plusieurs mois qu'on nous dit, il faut aller vite parce que l'hiver arrivant, le vent, les tempêtes éventuelles, le froid, voire le grand froid, tout cela joue beaucoup dans la solidité de cet échafaudage et dans son rapport au reste du bâtiment. Donc il faut le démonter vite. D'où cet échafaudage qu'on construit par-dessus, duquel des cordes vont descendre pour pouvoir le démonter pièce par pièce. Ça prendra beaucoup de temps. Il a fallu aussi construire un grand plancher sur tout le toit de la cathédrale, parce qu'il faut bien que tout cela puisse être fondé sur un plancher solide. Ben, vous voyez, il y a beaucoup d'opérations en cours. On ne va pas jouer les scénarios du pire, mais évidemment, il reste un risque majeur pour le bâtiment tant que cette espèce de cage de fer n'a pas été enlevée. Et donc, il faut qu'on aille maintenant le plus vite possible, avec responsabilité, mais avec rapidité.
On n'est pas à l'abri d'un écroulement éventuel d'une partie d'un mur.
On n'est jamais à l'abri du pire, mais enfin, il est quand même. On a vu que jusqu'à maintenant, depuis 6 mois, des hommes et des femmes ont fait l'impossible pour sauver ce bâtiment. Les pompiers, les compagnons, les ouvriers, les ingénieurs, tous ceux qui s'y sont penchés. Je ne peux pas imaginer que toute cette énergie, tous ces efforts, tout cet enthousiasme soit vain. Donc, je crois qu'on va y arriver, ça c'est sûr. À l'autre côté, ce sont les voûtes, ce sont les pierres qui composent ces voûtes et qui sont pour l'instant auscultées une par une par des ouvriers, parce qu'avec la grande chaleur et avec l'eau qu'elles ont reçue, puis depuis tous les effets de force qui jouent, beaucoup de pierres sont très endommagées et ont perdu beaucoup de leur solidité. Donc il faut...
Le calcaire s'est transformé en chaux.
Voilà, exactement. C'était ce que tout le monde craignait et ce qui s'est évidemment produit chimiquement. Voilà. Et donc il faut maintenant ausculter chaque pierre, ça représente un travail de Romain, et retirer celles qui doivent être retirées pour que celles qui sont encore solides puissent continuer à porter l'édifice.
L'incendie de Notre-Dame a bouleversé le quartier. Les commerçants accusent une chute vertigineuse de leur chiffre d'affaires et du côté du personnel affecté à la cathédrale, sur les 67 salariés, 38 vont être prochainement licenciés. Parallèlement au chantier, il y a donc l'accompagnement de ceux qui vivaient de la cathédrale. Monseigneur Patrick Chauvet, recteur de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Il y a un plan social tout simplement parce que je n'ai plus l'argent. Donc comme j'ai plus d'entrée, je crois que j'ai fait ce qu'il fallait, à savoir que jusqu'au 31 août, je les ai payés intégralement, donc je tenais absolument à ce qu'ils ne perdent pas leur salaire. J'ai ensuite lancé un plan social. Ce plan social, c'est un long chemin. Il y a effectivement le temps du licenciement.
C'est sur quel poste en fait ?
Ben, vous savez, il y a les postes techniques, il y a les postes de la boutique. J'ai plus de boutique, je suis obligé de mettre qu'est-ce que vous voulez que je fasse des vendeuses ? Je peux plus. L'accueil, il n'y a plus d'accueil. Voilà. Il y a les surveillants, mais j'ai plus rien à surveiller. Donc voilà, c'est tous ces personnels-là qui malheureusement. Voilà.
Et vous, donc vous êtes recteur, vous n'êtes évidemment pas en chômage technique. Est-ce que vous travaillez encore plus qu'avant avec tout ce chantier qu'il faut quand même, dont il faut accompagner les ouvriers, et puis il y a les commerçants du quartier aussi.
Alors, est-ce que je travaille plus qu'avant ? Oh là là. Mon travail, disons, est différent. Mais différent. Je suis un peu le recteur, d'abord globetrotteur, parce qu'il faut que je parle de la cathédrale partout, en France, dans le monde. Je suis allé à Milan, il y avait un grand concert au Duomo avec 2000 personnes, donc j'y suis allé. Je vais aller sans doute au Canada. Je vais après-demain à Saint-Étienne, après c'est Toulon, après. Donc ça, c'est une partie importante du rayonnement de la cathédrale. Je vous ai dit, je suis près des commerçants aussi, parce que je tiens, ce sont mes brebis. Hein, les brebis, elles ne sont plus dans la cathédrale, donc elles sont à l'extérieur.
Ils sont démoralisés, les commerçants ?
Oui, ils sont démoralisés parce que c'est une perte pour eux importante. Hein. Vous savez, pendant des semaines et des semaines, on ne voit personne. Donc ils ouvrent et puis il n'y a personne. Les restaurants, les magasins de souvenirs, c'est quand même très dur pour eux. Donc c'est vrai que ce combat, je veux le mener avec eux. Hein. Je ne veux pas me dire, c'est votre problème, c'est plus le mien. Non, c'est mon problème aussi, parce que la cathédrale, c'était, comme l'a dit Monseigneur de Sinetti, c'est aussi la présence de toutes ces personnes qui travaillent autour. Ce sont ces lieux aussi caritatifs. Je ne dis pas que les bistrots sont des lieux caritatifs, mais sont des lieux de rencontre. Et donc, j'aime bien, moi, être avec eux, non pas pour boire trop, mais en tout cas pour les écouter et puis essayer de leur donner une parole d'espérance.
Alors, il y aura ce concours d'architecture. Vous avez dit tout à l'heure qu'il ne faudra pas qu'il y ait d'ego, qu'il faut de l'humilité.
Ah oui, vous savez, quand on travaille sur une telle cathédrale du XIIIe siècle, on doit respecter les anciens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre. Hein, les bâtisseurs de cathédrales ont construit quelque chose d'une harmonie. Et je ne voudrais pas que l'harmonie soit détruite. Il est évident que si on me construit une tour Eiffel à la place de la Flèche, je râlerai. Que la Flèche ait une autre allure, dans le sens où, de toute façon, elle sera différente, parce qu'on n'aura pas le même matériel. Mais en revanche, il y aura les statues de Viollet-le-Duc. On les a oubliées, les statues, mais elles sont parties 8 jours avant l'incendie. Hein, et donc, méfiez-vous, vous reverrez les statues. Et elles font 3 mètres de haut. Donc on a le temps de les voir. Donc la Flèche, de toute façon, aura quand même un arrière-goût, un avant-goût ou un goût de Viollet-le-Duc. Parce qu'on remettra sans doute Viollet-le-Duc tout en haut. Voilà, en train de regarder sa Flèche. Ça sera peut-être plus tout à fait sa Flèche, mais ça sera bien, parce que pour son humilité aussi, ça doit être bien de dire, tiens, ils ont osé changer un petit peu ma Flèche.
Le chantier de consolidation a été retardé non seulement en raison de la complexité de la situation. Monseigneur de Sinetti a évoqué, on l'a entendu, le démontage périlleux de l'échafaudage de la Flèche, échafaudage qui a été tordu par les flammes, mais aussi du fait des risques sanitaires liés aux 400 tonnes de plomb qui ont été libérées lors de l'incendie et qui obligent les 80 compagnons qui travaillent sur le chantier à respecter une lourde procédure. Le détail avec Mgr Chauvet.
La procédure, c'est très simple. Quand vous rentrez, il faut vous déshabiller. Il faut mettre des vêtements adéquats, un slip en papier. Bon, très bien, vous rentrez. Et quand vous ressortez, eh bien, il faut enlever naturellement tous les vêtements. Il faut prendre une douche. Hein, pour être sûr que vous n'avez pas des parcelles de plomb sur vous. Ensuite, il faut se réhabiller et ensuite il faut sortir. Donc, vous voyez que c'est quand même un peu lourd quand vous le faites 4 ou 5 fois par jour.
Vous avez eu des analyses, vous n'avez pas été plombé.
Moi, je n'ai pas été plombé. Et pourtant, Dieu sait que je suis resté dans la cathédrale parce que tous les présidents que j'ai accompagnés après les incendies, les ministres, les députés, les sénateurs, je peux vous dire que j'en ai reçu, qui venaient du monde entier, je n'ai pas reçu de lettre me disant « Monseigneur, je suis plombé ».
Si l'objectif annoncé par le président Macron des 5 ans pour la durée de reconstruction reste un objectif plutôt qu'une certitude, en revanche, on l'a entendu, pour Mgr de Sinetti, le culte sera possible bien avant la fin des travaux. Le diocèse pense donc déjà au futur de Notre-Dame et des ateliers ont été créés pour penser le réaménagement de la cathédrale. Le père Gilles Drouin, directeur de l'Institut supérieur de liturgie, est délégué de l'archevêque pour l'aménagement de la cathédrale.
L'humilité par rapport à la cathédrale de Paris ne nous empêche pas de tirer le bilan je dis souvent de 60 ans de fonctionnement, parce que le dernier profond réaménagement, il y en a eu deux en réalité, il y en a eu trois, mais deux importants, c'est le Concile Vatican II. Après le Concile Vatican II, il a fallu modifier l'organisation de la cathédrale parce que la liturgie, la célébration a changé. Et puis, le cardinal Lustiger a déjà fait un premier bilan et a profondément remanié sa cathédrale. Le cardinal Lustiger avait un grand amour de cette cathédrale et lui a donné un rayonnement. Je veux dire, c'est notre figure tutélaire. Mais on n'est plus à l'époque du cardinal Lustiger. Les flux ont changé, je l'ai dit, les publics ont changé, la position de l'Église dans la société a changé. Et puis, on se doit, par exemple, également de tirer le bilan entre guillemets, des choses qui fonctionnent et des choses qui fonctionnent pas forcément.
Dans le Paris de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris, il y a un colossal qu'on a plein le dos, porter Notre-Dame sur son dos. Il se prend pour Quasimodo, regarde dans l'air la vie qui grouille, au lieu de faire des ronds dans l'eau. Tu peux pas vivre comme une grenouille, moitié sur terre, moitié sur l'eau. Moi je préfère rester là-haut, dans le jardin de Notre-Dame, où l'on se fait de bons amis. Y a qu'à se promener chaque matin, un peu de maïs au creux des mains. Les pigeons, moi je les aime bien. Les péniches se fichent des pigeons de la cité. Goélette, mouette, elles n'ont que ça dans l'idée. Oui, mais autour de Notre-Dame, il y a des voyages à bon marché. Et ces petits coins où le bonheur empêche les maisons de pousser. On l'appelle marché aux fleurs, Henri IV, verdâtre, aime sous son verdegris la vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris.
Et nous quittons le chantier de Notre-Dame de Paris et toutes ses équipes engagées dans sa renaissance pour rejoindre le terrain de jeunes femmes de foi qui se battent pour changer le monde, trouver une place dans la société et résister à l'adversité. Avant d'écouter le reportage de Clémentine Métainier, réalisé cet été à Abidjan autour d'une rencontre sur le leadership féminin organisée par deux prêtres, assomptionniste et jésuite, nous recevons Marie-Alix de Putter, jeune femme franco-camerounaise. Le 8 juillet 2012, son mari Éric de Putter, théologien français protestant, envoyé au Cameroun par le DEFAP, le service de mission protestante, pour enseigner à l'université protestante d'Afrique centrale, l'UPAC à Yaoundé, est assassiné au couteau par des inconnus. Ayant déjà reçu des menaces, il avait décidé avec sa jeune femme de quitter le pays. Et c'est à la veille de leur retour en France que l'assassinat s'est produit dans son bureau du campus. Marie-Alix a alors 27 ans et elle est enceinte de 4 mois. L'histoire de cet assassinat, l'histoire de ce couple très uni, Marie-Alix de Putter l'a raconté. raconte 7 ans après dans le livre « M, ma fille, M », publié aux éditions Ampelos, maison d'édition protestante. Un livre adressé à sa petite fille Rachel, mais aussi aux femmes.
C'est un livre que j'ai écrit en pensant d'abord à Rachel, parce que c'est une histoire qui la concerne en premier et qui concerne finalement les femmes, mais aussi les hommes finalement qui traversent des moments difficiles et qui ont peut-être parfois besoin de se dire qu'ils sont pas seuls dans leur situation et besoin de trouver de l'espérance selon ce que dirait Jacques Ellul. Donc l'espérance, c'est ce qu'on touche une fois qu'il y a plus d'espoir, et se dire que une autre vie reste possible, mais elle est possible.
Ce jour de juillet, le 8 juillet 2012, vous écrivez à propos de ce jour, j'ai 27 ans, je suis veuve, je suis enceinte.
C'est absolument inimaginable dans mon esprit à cette époque-là. Je me retrouve. C'est comme un tsunami suivi de 10 Hiroshima. Enfin, je ne suis plus.
Vous êtes anéantie.
Vraiment. Je sais même plus. Et vraiment littéralement, je sais même plus qui je suis. Tout ce que je constate, c'est. C'est l'horreur, en fait. C'est l'horreur, c'est le vide. J'ai pas de mots. Il me faut plusieurs années, en fait, pour commencer à mettre des mots sur ce qui s'est produit. Il me faut de la thérapie, parce que on en parle très peu, mais évidemment qu'il faut se faire accompagner. C'est pas possible de s'en sortir par soi-même. Et je vis ça dans un contexte d'église, donc j'ai aussi un rejet des pasteurs. Il se trouve que il y a deux pasteurs qui m'accompagnent de façon assez exceptionnelle
à Paris, hein.
À Paris, bien sûr. En tout cas, à cette époque-là, Marc Frédéric Muller, avec lequel j'ai travaillé au DEFAP et qui est quelqu'un vraiment en qui j'ai une totale confiance, qui est là, qui est vraiment vraiment présent et qui représente pour moi la figure de ce qu'on entend par être pasteur. J'ai rencontré et je continue à rencontrer ou à subir finalement l'inadéquation entre ce que ces personnes qui se présentent comme être des hommes et des femmes de Dieu peuvent semer comme haine, comme horreur dans les vies des autres.
Oui, parce qu'il faut effectivement expliquer à nos auditeurs que votre mari a été assassiné, il avait quel âge ?
31 ans,
a été assassiné dans un contexte de très grande tension à l'UPAC, hein, dans lequel il vivait, parce que, et pour vous, en tout cas, c'est ce que j'ai quand même compris en lisant le livre, même si bon, l'enquête n'a pas abouti, elle a été refermée, on ne saura peut-être jamais qui a tué votre mari. Contexte de grande tension parce que Éric de Putter dénonçait la corruption sur ce campus de l'UPAC.
Éric a dénoncé effectivement des faits de corruption sans jamais nommer personne. Donc ça veut dire qu'il n'a jamais accusé une personne en particulier, c'est très important de le dire. Mais il y a également, même si on prend ne serait-ce que l'aspect dans son travail, donc Éric, c'était un théologien protestant plutôt libéral. Quand je dis plutôt libéral, c'est un euphémisme.
Libéral.
Dans un contexte où, je prends un exemple pour que ce soit un peu plus clair, il était invité à une conférence organisée par des femmes, par des théologiennes, et ils étaient invités notamment à parler d'Adam et Ève, enfin grosso modo de l'origine de la situation des femmes. Et Eric dit pendant cette conférence, Dieu n'a pas puni les femmes. Il n'a pas puni la femme. Et ne serait-ce que dire ça dans un contexte où les personnes ont grandi, ont été formées avec l'idée que Dieu a puni les femmes et que c'est pour ça que nous devons subir toutes les conséquences, que ce soit pendant les enfantements, enfin les grossesses, etc. Même ça, c'est un choc finalement aussi. Enfin, on n'en parle pas, mais ne serait-ce que la vision, en tout cas ce qu'il apportait comme compétence théologique et la capacité à analyser le texte en allant plus loin que simplement lire la Bible de façon littérale, ça aussi c'était...
Ça déplaisait.
Ça déplaisait beaucoup. Ça, en tout cas, ça dérangeait. ça dérangeait, mais effectivement, on parle de corruption. Mais je le dis souvent, je dis, vous savez, si on assassinait toutes les personnes qui dénoncent la corruption au Cameroun, il resterait pas grand monde. Je reste toujours sans voix, en fait. Je crois que je ne comprendrai vraiment jamais comment on en est arrivé là.
Parce que ça n'est pas un crime crapuleux, ça n'était pas pour de l'argent.
Non, c'était ciblé. Il a été assassiné, en tout cas selon ce que dit l'autopsie, il a été assassiné par des professionnels. Donc c'était vraiment, c'était des personnes qui étaient venues là pour c'était, ça. C'était chez nous, donc on n'était pas à l'extérieur où on aurait pu dire peut-être que c'était un crime crapuleux. Non, c'était pas du tout un crime crapuleux. Ça a eu lieu dans le bureau où il recevait ses collègues, ses étudiants. Donc,
pas d'argent était pris.
Rien. Donc, je reste persuadée qu'on saura un jour. Peut-être que, vous et moi, nous ne serons plus là pour savoir, mais un jour, on saura. Parce que j'estime que ce n'est pas possible que quelque chose d'aussi grave se produise et que jamais on ne sache.
Quand on parle de corruption sur ce campus, que votre mari, Eric de Putter, dénonçait, cela concernait des détournements de bourses, c'est ça. En fait, c'est des étudiants qui recevaient des bourses d'Europe, de France notamment, et l'université, semble-t-il, prenait une part de ces bourses, notamment. C'est un exemple.
Il y a l'exemple des bourses où, pour obtenir des bourses, il fallait avoir des recommandations de responsables d'institutions. Et donc, pour obtenir ces recommandations, souvent même des étudiants brillants, aucun regard sur leurs compétences techniques, d'accord. Mais les étudiants devaient rémunérer la personne qui devait donner cette recommandation. Et la question que je pose, c'est de savoir à qui est la faute. Est-ce que c'est le ou l'étudiante qui va aller payer pour avoir cette recommandation? Est-ce que c'est la personne qui demande la recommandation? Ou est-ce que c'est l'institution qui demande une recommandation dont elle est biaisée? Et c'est un exemple. Il y a eu d'autres situations avec de l'argent qui était envoyé pour des bâtiments. Enfin, il y a eu tellement d'autres situations. Et si vous voulez, le message du livre, c'est de dire, il y a eu cette situation, il y a eu l'assassinat d'Eric, il y a eu d'autres situations qu'on a vécues sur place. Et je veux témoigner du fait que il est possible d'avoir un autre type de développement, même quand on a vécu l'horreur, quand on a vécu l'indicible. Et aujourd'hui, je choisis de me concentrer sur l'amour, parce que c'est mon vécu. Je me dis, Eric, il a rien emporté, en fait. Et tout ce qui reste d'Eric, c'est l'amour qu'il a donné et l'amour qu'il a reçu. Donc, il y a que ça. Enfin, vous voyez, on peut se dire la corruption ou alors le racisme ou les préjugés, mais finalement, qui sommes-nous et comment on aborde notre prochain, l'autre?
Le racisme, effectivement, vous l'évoquez plusieurs fois dans le livre, parce que vous êtes, vous, noire, mariée à un blanc. Alors du coup, on vous a appelé la blanche, c'est ça, non? Et oui. La Bounty, c'est quoi ça?
Bounty. Bounty, vous connaissez les chocolats qui sont marrons à l'extérieur et tout blanc de coco à l'intérieur. Voilà. C'est ça l'image. Et on m'appelait déjà Bounty avant même que je n'épouse un blanc, parce que je ne correspondais pas aux critères locaux. Ma situation effectivement s'est aggravée une fois que je suis devenue entre guillemets la femme du blanc, avec tout ce que ça comporte comme préjugés. À cette époque-là, quand je vais rejoindre Eric au Cameroun, je gagne en fait mieux ma vie que lui. Je suis diplômée. Enfin, j'ai une situation, enfin en tout cas économique qui est plus stable que la sienne. Il faut savoir que quand j'y vais, il touche une indemnité de 400 €. Enfin, je veux dire, c'est involontaire. C'est pas un expatrié qui gagnerait des millions et des millions de francs CFA. C'est pas du tout ça.
C'est
sa situation.
Théologien protestante qui a été envoyé
et qui
à la
marchait
fac,
pieds nus en plus. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est celui qui ne s'intéresse pas aux biens matériels, et pourtant de nous voir tous les deux. Enfin, les gens projetaient sur nous tout. Voilà, l'ensemble de leurs préjugés sur les femmes noires, sur les femmes camerounaises. Et effectivement, ça a pu avoir des conséquences quand même douloureuses.
Alors, c'est terrible ce passage du livre. Vous racontez votre fausse couche. Vous devez aller à l'hôpital pour un curetage. Donc non seulement il y a la douleur, mais un jeune médecin vous dit, est-ce que Tom White a prévu quelque chose ?
Tout à fait.
Alors là, c'est racisme, c'est corruption, c'est tout ça, quoi.
Et c'est dit vraiment avec beaucoup de mépris.
Et vous êtes sur la table gynécologique à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Je suis très simplement nue, en fait. J'ai les pieds dans les étriers, je sais pas ce qui va se produire.
Vous avez mal ?
Et j'ai mal, enfin, la souffrance est terrible et il a cette phrase-là et je repense en fait à toutes les autres femmes en fait. C'est-à-dire que à cet instant-là, je vis un moment aussi de sororité avec les autres, de me dire combien de femmes vivent ça. Et effectivement, on dit le White pour désigner Eric, en se disant est-ce qu'il a prévu quelque chose, donc est-ce qu'il a prévu de me donner quelque chose,
un bakchiche.
Je suis sans voix, j'arrive même pas à répondre à ça. Je me dis juste, mince, les femmes en souffrent.
Et tout le système aussi du soin au Cameroun, hein, que l'on voit à travers votre fausse couche, c'est-à-dire que Eric, donc votre mari, qui doit aller à la pharmacie acheter tout, quoi.
C'est une situation macro, en fait. C'est vrai que ce médecin, dans cette situation-là, à ce moment-là, est vraiment le chantre de, je sais pas comment je vais dire ça, d'une forme de désespoir, je pense. C'est-à-dire qu'il a une forme de déchéance et en même temps, quand on voit la situation globale, quand on voit les moyens que les hôpitaux ont ou n'ont pas, il faut avoir une compassion aussi pour les médecins qui souvent se retrouvent dans des situations très difficiles, même pour exercer leur métier alors qu'ils ont fait des études pendant de nombreuses années. Enfin, c'est un problème macro qui appelle des réponses macro, mais c'est vrai que dans cette situation-là, quand on vit cette situation, même si on représente un pourcentage, même si on représente 0,01% de la population, à ce moment-là, on le vit à 100%. Et donc, l'intensité de ce qu'on vit prend une autre proportion aussi.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invitée est Marie-Alix de Putter pour son livre « M, ma fille, M » aux éditions Ampelos. Alors vous, Marie-Alix, vous êtes toute jeune quand vous rencontrez Eric. Vous êtes toute jeune quand vous entrez au DFAP, alors que bon, vous auriez pu tout à fait ne pas entrer dans le milieu associatif où on gagne pas très bien sa vie. Pourquoi être entrée au DFAP, donc ce service de mission protestante, qui est au 102, hein, 102 oui. Boulevard Arago, c'est un lieu mythique pour les protestants, un lieu très connu. Pourquoi faire ce choix alors que bon, vous étiez passée par des études de com, des études de sciences politiques, vous pouviez aller dans un lieu peut-être moins, où vous auriez gagné mieux votre vie.
J'ai toujours été, enfin, l'intérêt général reste quand même au centre de presque tout ce que je fais. La conviction que on doit pouvoir se mettre au service de son prochain, on doit pouvoir apporter notre meilleur pour le bien de l'humanité. Et donc quand je rentre au DFAP, j'ai une formation en sciences politiques à cette époque-là et également un master 2 en gestion de projet. Donc c'est vraiment d'abord le hasard qui me fait découvrir l'annonce et je me dis en fait pourquoi pas. Voilà, tout simplement pourquoi pas. Je suis à cette époque-là totalement agnostique. Donc c'est très intéressant. Alors j'ai une famille qui est protestante et catholique, donc j'ai quand même une formation religieuse des deux côtés. Je suis quand même au fait, au courant du fait religieux de façon plus ou moins intense. Et donc c'est plutôt voilà l'opportunité de faire des choses à la fois pour l'Église, mais aussi pour les autres, contribuer, avoir l'impression de contribuer à rendre le monde un peu meilleur.
Et notamment le continent africain, puisque bon, oui, vous êtes né à Paris, mais vous avez quand même grandi au Cameroun, hein, chez votre tante. Donc vous avez grandi au début avec votre maman, et puis après vous partez chez votre tante.
Tout à fait.
Et puis après, les études supérieures, par contre, vous les faites à Paris. Et vous êtes parisienne dans l'âme, vous aimez Paris.
Totalement.
Vous êtes une accro.
J'aime Paris de façon irrationnelle.
Et donc, c'est au DFAP, hein, grâce au DFAP, que vous allez rencontrer... Eric.
Tout à fait.
Eric, lui, théologien, protestant, très protestant quand même. On le sent dans sa façon de vivre, ce que vous décrivez, garçon rigoureux.
Tout à fait. Qui plie ses chaussettes.
Vous étiez manifestement derrière un couple, tous les deux, très épris d'ordre, non ?
Oui. D'ordre, de liberté aussi.
Et de liberté aussi, oui.
De liberté. C'était... c'est quelque chose d'assez fondamental à la fois chez lui, mais aussi chez moi. Et donc, c'est un sujet qui nous a aussi réunis, que ce soit dans notre façon de vivre comme individu, comme couple, mais aussi comme citoyen engagé dans la société, de se dire la peur ne dictera pas nos actions.
Est-ce que votre rencontre avec Eric a modifié votre agnosticisme ?
C'est l'assassinat d'Eric qui a fait vraiment bouger ma foi, dans le sens où donc il y a l'assassinat d'Eric, la colère. Je traverse un moment assez long, plutôt dans la colère, dans l'incompréhension, dans le mais Dieu. Enfin, il était tellement je garde une très grande admiration pour Eric. C'est la personne. Y compris, je m'exclus de ça, c'est-à-dire que c'est la personne la plus congruente qu'il m'a été donné de rencontrer, et je ne comprenais pas pourquoi ça peut arriver à quelqu'un comme ça, c'est pas possible, c'est injuste, etc. Ensuite arrive Rachel qui a une forme de spiritualité qui vient de je ne sais où vraiment, et c'est Rachel qui m'amène en fait à la prière, parce que Rachel réclame en fait de prier les soirs, et pendant un certain temps, à chaque fois, c'est elle qui balbutiait ses petites prières, et puis elle insistait quand même pour que moi aussi je prie. Je lui disais oui, non, mais moi je prie pas, mais si tu veux, je t'accompagne toi dans ta prière. Et puis un jour, elle me dit oui, non, mais maman, moi aussi je veux t'entendre prier. Donc et je dis, vous voyez ce qu'on est prêt à faire pour que les enfants dorment. Et non, mais pour aller plus loin, ça a été vraiment ça, le déclic. Je priais jamais à voix haute, c'était impossible d'entendre une prière de ma part à voix haute. Non, ça n'existait pas. Et donc c'est Rachel qui m'emmène un petit peu là. Et puis il y a aussi ce besoin à un moment donné de se dire, je reste convaincue d'être quand même au bénéfice de l'amour de Dieu, je le pense et je le crois vraiment, et que ce soit, alors il y a eu toutes les personnes qui nous ont fait du mal et qui continuent à nous faire du mal, qu'elles soient proches, en tout cas supposées être proches de nous ou pas, mais il y a toutes les autres. Je pense que c'est aussi une manifestation du divin dans notre vie à travers des personnes
qui vous ont aidé, notamment
qui nous aident, qui nous soutiennent à un moment,
qui vous aiment.
Mais bien sûr. Et ma maman, elle dit souvent les personnes qui sont avec nous sont plus nombreuses et elles sont plus fortes que les personnes qui sont contre nous ou contre l'adversité. Et je le crois vraiment. Je pense que je serais pas là s'il y avait pas cet amour, en fait. J'y crois vraiment.
Aime, ma fille, aime. Donc, c'est le message de votre livre à votre fille. Le message, un message beaucoup plus large, bien sûr, on l'a compris. C'est de dire que l'amour, est plus fort que la haine. Et que l'amour sauvera le monde?
Oui, avec nous. Avec nous et au travers de nous, et de se dire que peu importe ce qui nous arrive, accrochons-nous parce que une vie reste possible.
Et vous l'aimez, la vie?
Je l'aime, la vie. Je la chéris et je suis reconnaissante de pouvoir utiliser le temps qui m'est donné sur Terre pour faire du bien.
Merci Marie-Alix de Putard. Je rappelle donc ce titre, ce beau titre, Aime, ma fille, aime. Résilience, amour et liberté, le sous-titre, et c'est publié aux éditions Ampelos. Merci.
Merci Geneviève.
Religion du monde, Geneviève Delrue.
Sur ces jeunes femmes africaines qui veulent prendre leur destin en main, surmonter l'adversité comme Marie-Alix de Putter, ou dépasser les simples difficultés de se faire une place dans des sociétés marquées par le rôle prééminent de l'homme, je vous propose d'écouter le reportage de Clémentine Métainier, journaliste indépendante qui est allée en août dernier à Abidjan couvrir 3 journées organisées au CERAP, le Centre de Recherche et d'Action pour la Paix. Couvrir donc 3 journées où 40 jeunes se sont retrouvés sur le thème du leadership féminin et les enjeux du vivre ensemble en Afrique. Clémentine Métainier, bonjour.
Bonjour Geneviève, bonjour à tous.
Cette rencontre était organisée par un prêtre assomptionniste burkinabé, le père Jean-Paul Sagadou, que vous connaissez bien, car c'est lui qui depuis des années réunit dans des rencontres l'été des jeunes, dans des voyages appelés voyages d'intégration africaine, le but étant que ces jeunes de pays différents se rencontrent, et ce sont des jeunes de toute confession, Clémentine.
Effectivement, alors Jean-Paul Sagadou, c'est un grand passionné par la thématique de la jeunesse africaine, et preuve en est puisqu'il organise ses voyages depuis maintenant 10 ans.
Au fond, ce qui nous mobilise, c'est le rêve de dessiner ou peut-être de redessiner les cadres du vivre ensemble sur le continent africain en donnant la possibilité, non pas qu'elle n'existe pas, mais nous voulons la travailler de manière spécifique avec les jeunes, en donnant la possibilité de la parole, en fait, à la femme. Parce que de toute façon, dans la tradition africaine, cette femme a une place importante, elle a toujours joué un rôle important dans la société, peut-être de manière un peu discrète. Et actuellement, nous estimons que c'est important parce que sur le continent, il y a pas mal de jeunes femmes, de femmes qui sont très présentes, très actives, y compris dans les réseaux sociaux et qui ont quelque chose de particulièrement important à communiquer. Et donc, nous avons pensé que c'était bon de pouvoir se retrouver avec elles. Et il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des garçons, pour penser justement cette question du leadership féminin.
Il y a toujours cette notion d'interreligieux et qui est un peu fil rouge. Est-ce que vous sentez que les jeunes, la jeunesse africaine, s'emparent de cette question de foi, de spiritualité? Est-ce que ça fait aussi partie des discussions quand on compare avec la diaspora africaine qui vit en France? La religion est de moins en moins présente. Comment est-ce que vous observez ça?
Oui, c'est ce qu'il y a vraiment de spécifique, je crois, dans ce que nous essayons de faire. Nous nous sommes rendus compte que pour les jeunes, en tout cas, qui ont eu l'occasion de participer à ces expériences d'intégration africaine, au fond, au plus profond d'eux-mêmes, l'enjeu pour eux, c'est finalement pas la barrière religieuse, mais c'est la rencontre humaine. Et pour nous, religieux assomptionnistes, qui nous définissons comme des hommes de communion dans un monde divisé, eh bien, on se rend compte, en accompagnant ces jeunes-là, qu'il y a quelque chose de très fort qui se joue, dans la mesure où, finalement, il y a un effort de transcender, en fait, les différences ou d'en faire des richesses pour pouvoir avancer ensemble. Et personnellement, ce que j'observe depuis 10 ans, c'est que au fond, ce dialogue interreligieux-là, le dialogue de la vie, eh bien, il se joue de manière très concrète, de manière très pratique avec les jeunes. La possibilité donnée à des jeunes musulmans, protestants et catholiques de vivre 10 jours ensemble, de partager la même table, les mêmes activités, de se frotter, de discuter, d'échanger, eh bien, ça aide énormément chacun d'entre eux à façonner sa personnalité humaine, mais aussi, je crois, à être un peu plus au clair avec sa foi, avec l'idée qu'on a tous ensemble des défis à relever pour la construction de notre monde, de notre continent.
Clémentine, le lieu de cette rencontre sur le leadership féminin n'est pas anodin. Le CERAP, le Centre de Recherche et d'Action pour la Paix, est tenu par des jésuites, notamment le père François Caboret. Et le but de ces jésuites, c'est de former des leaders, des leaders au service du bien commun.
Oui, le CERAP accueille 615 étudiants, majoritairement ivoiriens, après le bac. 5 licences leur sont proposées dans le domaine des sciences, économie et gestion, mais aussi des licences en sciences juridiques, politiques ou encore de l'administration. Et puis également une 10aine de masters après la licence sur les thèmes de la gouvernance, de la responsabilité sociétale des entreprises, du développement durable ou encore sur le thème de l'humanitaire.
C'est vrai que beaucoup de gens, quand ils se rendent compte que nous sommes une communauté religieuse catholique, s'attendraient à ce que peut-être partout il y ait des croix, il y ait des images de la Vierge Marie, ainsi de suite. Mais en fait, la façon dont les jésuites approchent l'éducation est assez unique, en ce sens que nous accueillons toute personne et tout humain qui veut se former. Ça, c'est la première chose. Ceci dit, nous le faisons à partir de qui nous sommes, c'est-à-dire des jésuites catholiques. Ce que cela signifie, c'est que pour nous, l'éducation doit être d'abord une éducation intégrale. Ce que cela signifie, c'est que nous mettons à la fois l'accent sur l'excellence académique, mais au-delà de cela, nous devons former des hommes à la tête non seulement bien pleine, mais aussi bien faite. Et de ce point de vue, ce que nous appelons formation intégrale, ou bien former tout homme et vraiment tout l'homme, ça veut dire mettre l'accent sur l'excellence académique, mettre l'accent sur la formation spirituelle, mettre l'accent sur la formation physique et de toutes les dimensions de la personne humaine.
Pour vous, ça veut dire quoi le leadership féminin? Comment vous le définiriez?
Je dirais que je ne suis pas spécialiste du leadership féminin, mais disons que dans la mesure où, à travers nos formations, nous voulons former justement des leaders, à travers notre formation humaine, intégrale, spirituelle, intellectuelle, nous voulons former des leaders pour demain, des leaders pour aujourd'hui, pour demain, des leaders de la société africaine. Et quand nous parlons des leaders, comme quelqu'un l'a souvent dit, on ne peut pas former des leaders pour la société africaine en négligeant 50% de la population, ou même plus, parce que comme vous le savez, les femmes constituent plus de 50% de la population. Et je vous dis quelque chose, ça c'est une confession, pratiquement. Dans cet institut, chaque année quand nous faisons, nous regardons les résultats de nos étudiants, parfois, les 5-10 premiers de tous les cycles sont des filles. Et la question que moi je me pose, c'est dans 5-10 ans, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, que vont devenir ces pépites? Que vont devenir ces jeunes qui ont tant de promesses? Il nous faut nous rendre compte que nous devons mettre tout en œuvre pour que les jeunes filles qui ont tant de potentiel puissent non seulement s'épanouir, mais redonner à la société. C'est un problème d'aider ces jeunes et ces femmes à bâtir leur confiance en elles-mêmes. Et aussi, vous voyez, dans cette formation, nous nous sommes battus pour que, puisque l'une des dames qui est justement la cheville ouvrière de cette organisation ici au CERAP, c'est Mariama. Et nous allons tout faire pour qu'il y ait des dames qui ont déjà la tête sur les épaules, qui ont réussi dans leur vie, qui sont à des postes de leadership. Nous allons permettre à ces aînés-là de revenir vers leurs jeunes sœurs et de leur dire « ton rêve est possible ». Qu'elles viennent leur tenir un peu la main, qu'elles viennent leur dire que c'est possible de concilier le fait d'être femme intégralement, totalement, et de contribuer à la société tout comme un garçon, et je dirais même parfois plus qu'un garçon.
Alors Clémentine, deux femmes ont été les piliers, j'allais dire, hein, de ces rencontres sur le leadership féminin. La première, Mariama Koulibaly. Qui est Mariama ?
Alors Mariama Koulibaly, elle est juriste de formation et là elle est gestionnaire en administration. Elle travaille actuellement au CERAP. Elle est, on peut dire, la cheville ouvrière de ces rencontres puisqu'elle a voulu organiser à Abidjan, en 2019, ces rencontres, après en avoir assisté à plusieurs éditions des voyages d'intégration africaine.
On a remarqué que de plus en plus, les femmes sont en train de monter dans la société. Et on sait tous que dans nos sociétés africaines, les femmes n'ont pas droit à la parole, elles n'ont pas droit à faire telle chose. Il y a tellement de restrictions. Donc avec ce thème, on veut permettre à la jeunesse en général, mais plus singulièrement à la jeunesse féminine, pour lui dire qu'il n'y a pas de barrière et que quand on veut atteindre certains objectifs pour se développer soi-même ou développer son continent ou son pays, on peut y arriver qu'on soit femme ou homme. Donc avec ce thème de leadership féminin et du vivre ensemble en Afrique, je pense que ça va vraiment réveiller beaucoup de jeunes femmes qui se disaient que bon, peut-être tout est perdu, on ne peut pas, mais on peut quand même bousculer la société positivement.
Et vous, je dirais, vous êtes trentenaire, vous avez quel âge, Mariama ?
Oui, j'ai 29 ans.
D'accord, vous êtes donc voilà, aux environs de la trentaine. Est-ce que vous sentez, vous, que dans votre vie, dans votre émancipation féminine, ça change, qu'il y a des évolutions peut-être par rapport aux générations précédentes ? Ou est-ce que vous êtes plutôt optimiste, ou il reste encore des choses compliquées à résoudre ?
Je reste optimiste. Dans la société, de façon générale, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui sont à la tête de certaines institutions, qui ont vraiment des postes de responsabilité que les hommes avaient auparavant. Donc moi, je dis, je reste toujours optimiste parce que je me dis qu'on pourra aider les générations futures à suivre ce chemin que nous avons commencé à la suite de nos aînés qui nous ont dévancés. On pourra ensemble changer la vision du monde et permettre aux femmes de pouvoir vraiment avoir ces différents postes de responsabilité, de pouvoir faire leur preuve et dire que les femmes peuvent aussi réaliser quelque chose de bon. On a vu qu'il y a eu une présidente qui a été féminine au Libéria. Donc ça veut dire qu'il y a eu un progrès qui s'est fait, que ce soit au niveau de la technologie, dans différents aspects. Et ça, ce sont des femmes africaines qui se battent, de jeunes comme des plus âgées et tout, qui se battent pour que les jeunes filles aujourd'hui arrivent à s'impliquer. Et même chez nous en Côte d'Ivoire, on a les concours féminins dans les lycées féminins, comme les Miss Mathématiques, les Miss Physiques. Et ce sont des jeunes filles qui travaillent, parce qu'avant on se disait, bon, les séries scientifiques sont dédiées seulement aux hommes. Et on voit qu'elles arrivent à réaliser et à avoir des métiers d'hommes. Donc moi, je pense qu'il faut rester toujours optimiste parce qu'on va atteindre l'objectif fixé.
Et puis, Clémentine, autre figure de ces rencontres à Abidjan en août dernier sur le leadership féminin, Raïssa Ameko, jeune femme togolaise de 38 ans.
Une femme, on pourrait dire, avec une combativité assez marquante et pour qui les religions ont eu une influence profonde sur la construction de sa foi, puisqu'elle ne cesse de cheminer, hein, c'est ce qu'elle dit quand elle en parle, et que ce cheminement a eu un impact sur ses engagements sociaux.
J'ai été influencée par la vie religieuse, d'abord le côté social que je voyais des sœurs religieuses. Quand je voyais, je lisais beaucoup sur les sœurs religieuses qui étaient dans des communautés en Afrique, qui développaient des projets. Quand je les voyais dans les robes, ça m'a tellement influencé. Mon côté social de vouloir faire quelque chose pour les jeunes, je crois, était très influencé partant de là.
Et aujourd'hui, l'école de vision, qu'est-ce que vous arrivez à rassembler et pourquoi la destination des filles particulièrement?
Bon, l'école de vision, en fait, ce n'est que la transmission de ce que la vie m'a appris. D'abord, en tant que femme, où nous avons déjà, nous subissons des inégalités sur tous les plans, que ce soit la santé, l'accès à l'éducation, l'accès au leadership, l'accès à la vie publique ou à la vie sociale. Il y a des inégalités dans tous ces sens-là, et que moi-même j'ai subi. Et de l'autre, en tant que jeune, nous avons également, nous subissons des inégalités. Donc du coup, la jeune femme, la jeune fille est doublement vulnérable. Donc je me suis dit, ok, c'est un choix stratégique, je vais plus axer mes actions pour le moment sur les jeunes filles, et quand les moyens seront plus conséquents, je vais ouvrir mes actions à toute catégorie de jeunes. Voilà.
Si on parle d'une vision plus globale que d'une vision plus personnelle, quelle vision avez-vous sur la femme africaine de demain en Afrique? On ne cherche pas à essentialiser la femme en tant que telle, mais les enjeux autour des femmes africaines aujourd'hui.
La femme africaine du futur, comment je la vois dans mon esprit, c'est une femme d'abord qui a confiance en elle-même, c'est une femme très autonome et qui arrive à un certain équilibre entre toutes les dimensions humaines, le spirituel, l'économique, le social, et contribue au changement social dans son milieu de vie d'abord. Voilà comment je vois la femme des générations à venir. C'est plus la femme qui est dans son rôle social, qui s'arrête à faire des enfants, à avoir un mari, à faire des petites actions. Non, c'est pas cette femme que nous voulons, mais nous voulons plus une femme qui, au-delà de sa féminité, est très présente dans sa société et dans toutes les sphères d'influence, en complémentarité aux hommes, changeant positivement la société. Voilà comment je l'aperçois, la femme du futur. En Afrique.
Alors, c'est la fin de ce reportage. Clémentine, c'était la deuxième fois que vous suiviez en Afrique ces groupes de jeunes, donc dans ces voyages et ces rencontres organisées par le père Jean-Paul Sagadou. Qu'est-ce que vous en retenez, vous?
Alors moi, je reste marquée en fait par des échanges profonds, par des personnes, jeunes ou moins jeunes, qui, pourrait-on dire, sont en train de faire l'histoire du continent africain, c'est ce que j'ai ressenti. En tout cas, le façonner pour plus de justice, de liberté et pour plus de possibilités aussi. Et en fait, c'est la construction sous nos yeux d'une Afrique. Et là, j'aimerais bien reprendre une phrase de Jean-Paul Sagadou qui dit « Une Afrique à la mesure d'elle-même, capable de se donner à elle-même sa propre loi, une Afrique riche des possibles ».
Voilà, ce qui donne effectivement envie d'aller de l'avant. Je vous remercie, Clémentine, pour ce reportage. Merci. C'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Apolline Raison-Verlon vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.